voisin, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiot.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. À l'occasion de notre journée spéciale sur RFI pour évoquer l'état de la France à 60 jours du premier tour des élections présidentielles, nous parlons des banlieues françaises, elles qui se sont invitées dans la campagne avec l'affaire Théo, d'après le prénom de ce jeune homme noir, victime d'un viol présumé par la police à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Les banlieues, urgence sociale et politique depuis plusieurs décennies, sont devenues le nom de tous les problèmes. Alors quels défis se posent aujourd'hui à ces territoires? En périphérie des villes, quartiers populaires ou sensibles, ghettos, territoires perdus de la République, les appellations ne manquent pas. Mais quelle réalité, au pluriel, se cache derrière ces mots? Avec nous, pour en parler, Alain Berthaud, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, professeur à l'Université Paris 8 et vous étudiez les banlieues depuis un certain temps maintenant. Bonjour Catherine Rhein.
Oui, bonjour.
Vous êtes quant à vous géographe et directrice de recherche au CNRS. Et bonjour Mariam Tiganimine.
Bonjour.
Vous êtes chargée d'enseignement en entrepreneuriat à Sciences Po Paris, un secteur que vous connaissez bien puisque vous avez lancé babelbusiness.com, une plateforme pour accompagner des entrepreneurs en herbe, en banlieue notamment, mais pas seulement. Et vous, les voisins, les voisines, qu'en pensez-vous? Quel regard portez-vous sur ces banlieues françaises? Chômage, manque d'infrastructures sociales et même sportives, les mêmes problèmes se retrouvent-ils chez vous, d'Abobo, en bordure d'Abidjan, à Pikine, près de Dakar et dans d'autres quartiers périphériques? Et quel malaise vous semble-t-il révéler? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 33 1 84 22 71 71 et bien sûr, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Quel avenir pour les banlieues françaises et quel fantasme? Et ce ne sont certainement pas les fantasmes qui manquent.
Bonsoir. Cambriolage, trafic de stupéfiants, guerre des bandes. Aujourd'hui, les délinquants n'ont peur de rien.
Violence, cambriolage, trafic de drogue, contrôle.
Qui tourne parfois très mal et où les policiers doivent faire face à une véritable guérilla urbaine.
Dans les quartiers chauds de Paris et de la banlieue, les policiers ont affaire à des délinquants de plus en plus violents. Et de plus en plus jeunes.
Quels sont les moyens dont disposent les policiers pour lutter contre cette délinquance?
Il faut toujours rester vigilant, voilà, parce que ces personnes rôdent, ces personnes sont là et sont prêtes à tout faire à tout moment.
En France, entre 2000 et 5000 jeunes font partie d'une bande enquête au cœur de l'action.
Des bandes de jeunes se sont opposées aux forces de l'ordre.
Toujours au début, il y a ces voitures incendiées, barricades de flammes qui attirent les escouades de CRS dans le piège des échauffourées.
Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va pas vous en débarrasser.
Il n'y a plus beaucoup de Français ici, hein, quand même. Faut pas l'oublier, ça. Moi-même, j'ai été attaqué par quand même pas mal d'étrangers. Mais on en a un peu marre.
L'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer.
Vous en avez assez, hein?
Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien.
Vous en avez assez, hein?
Jusqu'ici, tout va bien.
Jusqu'ici tout va bien, mix très cliché réalisé par Mathieu Salabert avec des extraits de reportages télévisés, un passage également du film La Haine, vous l'aurez peut-être reconnu, film sur la banlieue de Mathieu Kassovitz daté de 95. Alain Berthaud, quel imaginaire continue de susciter la banlieue?
On fait bien de commencer par là, parce que le mot banlieue tel que je l'ai rencontré et sur lequel je travaille depuis 30 ans, pour moi c'est avant tout un terme politique et un terme symbolique qui construit de l'imaginaire. Il est apparu tel quel tout seul dans le vocabulaire politique dans les années 80, au début des années 80, en même temps que d'autres. En même temps que le mot immigré, par exemple. C'est-à-dire, la banlieue rouge est devenue une banlieue tout court, et une partie des ouvriers, on les a regardés comme des immigrés. C'est l'histoire de la fin d'une autre symbolique, d'un autre imaginaire qui était celui de la classe ouvrière, des classes populaires politisées. Et avec la fin du fordisme, ces classes ont été pour une part appauvries, elles ont été éclatées, et une partie d'entre elles ont été mises à l'écart. Voilà, la banlieue, c'est l'histoire d'une mise à l'écart qui dure maintenant depuis bien deux générations depuis le début des années 80. Il faut se rendre compte que ça va faire bientôt 40 ans. Et une mise à l'écart qui permet de ne pas voir l'appauvrissement, qui ne peut pas permet de pas voir la montée du chômage, qui ne permet pas de voir le maintien d'une gestion, certains de mes amis et collègues diraient coloniale, de cette population qu'on a fait venir pour travailler dans les usines, et dont les enfants, les petits-enfants, voire peut-être maintenant les arrière-petits-enfants, ne sont toujours pas considérés complètement comme des Français. Et cette mise à l'écart, elle a été systématiquement organisée, parfois avec les meilleures intentions du monde. Depuis les années 80, on a appliqué à ces zones urbaines et à ces populations des politiques spécifiques qu'on appelle la politique de la ville, qui a une version éducative, une version policière, une version économique.
Les plans banlieues. Appelés tels quels.
On aurait intérêt à réfléchir à la raison pour laquelle les enfants de ceux qui, au début de ces années 80, ont manifesté collectivement le problème de cette mise à l'écart. C'était la marche pour l'égalité de 1983.
Au fond,
les jeunes de 2005 qui, dans la France entière, ont brûlé des voitures face à l'indifférence institutionnelle et politique après la mort de Ziad Ebouna, c'est les enfants des marcheurs de 83. Donc on a entretenu une stigmatisation qui est une stigmatisation qui finit par être cumulative dans l'imaginaire. On passe beaucoup de l'imaginaire des gens vis-à-vis des banlieues. On devrait un petit peu s'intéresser à l'imaginaire de ces enfants qui sont nés en France, de parents des fois nés en France, et qu'on continue à considérer comme des non-français.
Catherine Rhein, qu'est-ce que nous apprend la genèse de ces quartiers quand on s'intéresse à la construction de ces banlieues ?
Parlons des banlieues de façon large pour comprendre la question des quartiers. Parce que quand on utilise ce terme quartier, ça veut dire quartier politique de la ville, quartier d'habitat social. Donc là, il y a vraiment des précisions importantes à faire. D'abord, ces quartiers d'habitat social sont toutes des pièces dans cette vaste mosaïque que constituent les banlieues, le tissu urbain de ces communes de banlieue. Alors aussi, une précision sur le terme de banlieue, c'était un terme qui est né avant la Révolution française pour désigner l'espace qui était périphérique des villes, à l'époque où les villes avaient un statut sur le plan juridique, ce qu'elles ont perdu ensuite, pendant la Révolution française, puisque ensuite on est passé à ce régime des communes, qui est un régime tout à fait général à tout le territoire français. Je dis ça parce que ça n'est pas du tout le cas, par exemple, aux États-Unis. Alors ensuite, ce terme de banlieue a été très utilisé dès le 19e siècle, bien sûr, puisque l'urbanisation de Paris a effectivement engendré la production de ces banlieues, l'urbanisation de ces banlieues.
Ces banlieues
ce qui
ne sont
me paraît
pas nouvelles.
Très importante, c'est qu'en fait, on a actuellement affaire à des structures spatiales extrêmement fortes, complexes, c'est pas du tout un chaos, mais qui résultent de quatre grands cycles, en fait. Un premier cycle, première moitié du 19e, qui est le cycle des canaux, avec une structuration qui part de ce qui est actuellement le Paris 11e et arrondissement, le long donc des
dans
canaux,
l'Est de Paris,
etc. Voilà. L'Est de Paris, ça va se prolonger dans la deuxième moitié du 19e, oui, avec le cycle des chemins de fer, en particulier la plaine Saint-Denis, qui est une zone industrielle de fait qui a été absolument majeure dans l'économie française au tournant donc du 20e siècle, pardon, qui est marqué donc par le développement de très grands réseaux et de très grands faisceaux ferroviaires, qui marquera pratiquement toutes les grandes communes de banlieue. Je pense à Ivry, je pense évidemment à Saint-Denis, Pantin, etc. Le troisième grand cycle, c'est le cycle, on peut dire, du Fordisme si on veut, mais qui est autour de l'économie automobile, électromécanique et aéronautique. Et effectivement, à partir des années 60-70, ce cycle nouveau, qui a un demi-siècle
récent,
maintenant,
on va dire.
Voilà, marqué effectivement par une désindustrialisation, c'est-à-dire les entreprises quittent ce territoire des communes de banlieue. Et à la place se développe une métropole polynucléaire, puisque simultanément sont lancées la construction des grandes villes nouvelles autour de Paris.
Ces banlieues ont donc une histoire très liée à celle de l'industrialisation et de la désindustrialisation qu'on connaît depuis plusieurs décennies maintenant. Mariam Tiganimine, vous avez grandi à Mantes-la-Ville, dans les Yvelines. Mantes-la-Jolie, quel regard vous portez sur cette banlieue, sur ces banlieues, sur cette idée-là ?
Moi, je suis un peu effectivement gênée par l'utilisation un peu abusive. En fait, on parle parfois de quartier, de banlieue, de cité, dans le meilleur des cas. Est-ce qu'on considère que Saint-Cloud et Vaucresson, en fait, font partie de la banlieue,
dans les Hauts-de-Seine,
au même titre que Versailles et au même titre que Mantes-la-Jolie ou Sevran ou Beson.
On a des banlieues beaucoup plus favorisées que d'autres.
Exactement. Et moi, je n'ai pas de vision angélique de la banlieue, ni de vision négative. Enfin, moi, de l'expérience, l'expérience que j'ai pu en avoir a été heureuse et compliquée. Enfin, c'est quand même des lieux plutôt enclavés, plutôt anxiogènes. Et la plupart des gens qui y vivent ont souvent envie d'en sortir. Il y a des choses qui s'y passent, il y a des gens qui sont très bien, normaux comme partout, comme dans les campagnes, comme dans d'autres territoires français.
Et vous êtes vous-même sorti de cette banlieue-là, vous êtes devenu aussi entrepreneur, vous avez lancé une plateforme qui s'appelle babelbusiness.com.
Tout à fait.
Avec cette idée que l'entrepreneuriat notamment pourra aider à résoudre cette question de l'emploi en banlieue.
Résoudre la question de l'emploi, je ne sais pas, mais l'idée en fait c'était surtout de répondre à un besoin, que ce soit en banlieue ou dans les campagnes ou ailleurs. D'ailleurs c'est un besoin plutôt universel, parce que c'est des expériences qu'on a pu faire en France, mais aussi en Ouganda, au Maroc, à Singapour. Enfin, l'idée c'était surtout de permettre à des gens en fait d'exprimer un potentiel, donc leur potentiel économique, et de leur permettre en fait de gagner un complément de revenu ou un revenu dans le meilleur des cas. On n'a pas de baguette magique, on n'a pas encore la solution pour éradiquer le chômage, mais en tout cas on permet à des personnes en fait qui le veulent de pouvoir se lancer, de pouvoir être autonome, parce qu'on a aussi une vision du business qui est plutôt un outil d'empowerment pour nous, même si on se rend compte qu'avec la mode de l'entrepreneuriat et du business, c'est devenu un outil d'empowerment pour d'autres personnes qui sont plutôt favorisées, qui avant étaient plutôt dans des cabinets de conseil, dans les entreprises de papa-maman, et qui aujourd'hui en fait s'en saisissent. Voilà. Donc l'idée, véritablement, c'est d'avoir une approche positive et de permettre aux individus, en fait, de pouvoir s'émanciper.
Empowerment, un anglicisme pour
tout
parler
à fait.
Du fait de donner du pouvoir à des populations.
Exactement.
Vous publiez une tribune sur le Bondy Blog et vous écrivez dans cette tribune « Les quartiers sont des viviers de footballeurs professionnels. Pourquoi, dans les autres domaines et notamment dans le business, nous n'arrivons pas à sortir des banlieues la crème de la crème ?» Alors pourquoi ?
Bonne question. C'est une question qu'on essaie de résoudre avec mon associé et d'autres personnes avec qui on travaille. C'est vrai qu'on a remarqué en fait que pour des domaines en fait aussi sélectifs et concurrentiels que le sport professionnel ou le sport de haut niveau, on arrivait en fait à sortir de ces quartiers entre guillemets en fait des hauts potentiels. Et en fait, on n'arrive pas à faire ça. On n'arrive pas à avoir des avocats, des médecins, des professeurs d'université ou autres. Alors que c'est vraiment des domaines qui sont beaucoup plus compliqués. Enfin, compliqués en tout cas. Et en fait, on pense que si on arrive en fait à mettre en œuvre les mêmes moyens et de fixer en fait les mêmes conditions de sélection, qui sont basées plutôt sur le mérite, la sélection et la performance, peut-être qu'on arrivera à quelque chose. C'est pour ça aussi qu'on a développé des outils, des programmes qui sont plutôt sportifiés, inspirés du sport, où en fait on ne se concentre uniquement que sur le travail en fait des personnes, pas sur leur niveau de diplôme, leur niveau de langue, leur origine, leur sexe, etc. On prend tout le monde vraiment. C'est pour ça que je vous ai dit des quartiers, des campagnes, de n'importe où, et on essaie
pas seulement
de
la banlieue.
Exactement.
Et comment vous vous inspirez du sport ?
Un exemple tout bête, quand vous voulez apprendre à faire une traction, soit vous êtes dans une salle de sport, soit vous allez sur YouTube, parce que maintenant, grâce à Internet, on a la possibilité d'avoir accès à des tutos. Mm-hmm. Donc, vous avez des éducatifs, des tutoriels, pardon. Donc, vous avez la possibilité de progresser. C'est un peu le même principe avec la méthode Babel Business. L'idée, c'est de dire, l'entrepreneuriat, comme n'importe quelle autre chose, n'est pas inné, ça s'apprend. C'est vrai qu'on a une vision très, très magique, en fait, du business. Et d'autres domaines, mais non, en fait, ça s'apprend. Vous avez des workouts, en fait, donc vous venez, vous avez une vidéo d'une minute, qui vous permet d'apprendre, de vous familiariser à des notions économiques, qu'est-ce qu'un prix, qu'est-ce qu'un client, qu'est-ce qu'une place de marché, et ensuite, vous avez des choses à faire, vous passez à l'action. Donc, c'est vraiment comme dans une séance de sport, vous avez d'abord un échauffement, ensuite, vous avez de la technique, et enfin, vous avez...
On passe aux choses sérieuses.
Exactement.
On développe son business.
Tout à fait.
On reparlera de ce programme qui est payant, on reparlera de cet entrepreneuriat aussi, qui est peut-être peut-être une des solutions pour les banlieues. 7 milliards de voisins, comment changer de regard et de discours sur les banlieues? Vous nous appelez, les voisins, les voisines, au 33 84 22 71 71. Si vous avez des questions pour nos invités ou des points de vue, si vous retrouvez peut-être des similitudes avec des quartiers en périphérie chez vous.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin. 7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins sur RFI.
Les banlieues semblaient oubliées de la campagne présidentielle française, mais l'affaire Théo les a propulsées sur le devant de la scène. Comment, Alain Berthaud, vous interprétez les manifestations de colère, d'indignation qui ont suivi le viol présumé et les violences policières subies par Théo, ce jeune homme, lors d'un contrôle de police début février ?
La première chose qu'on peut dire, c'est que la colère collective et l'indignation et les manifestations, c'est quand même la moindre des choses qu'on pouvait attendre après une telle exaction. Une telle exaction policière dans une ambiance où les brutalités et l'abus de pouvoir est un peu le quotidien. Des jeunes de ces quartiers, aux quelques témoignages qui ont été rassemblés depuis le montrent. C'est un fait nouveau sur les dernières décennies. C'est un fait nouveau que de telles exactions puissent émouvoir et rassembler des manifestations de soutien au-delà des quartiers, dans d'autres milieux, dans d'autres zones urbaines, parce que, je le rappelle dans une tribune récente de Mediapart, si on prend les deux derniers quinquennats, il y a 16 jeunes qui sont morts dans des circonstances dans lesquelles la police était impliquée, je ne dis pas qu'elle est forcément responsable, mais dans les circonstances
donc
dans lesquelles
Nicolas
la police
Sarkozy
était impliquée, et qui ont été suivis localement d'émeutes. Parce que des jeunes qui sont morts, dans ces circonstances-là, il y en a eu plus que ça. Il y en a eu 16. Le dernier en date, c'est le 19 juillet 2016, c'est Adama Traoré, où là, les choses commencent à tourner. Mais ces 16 morts n'ont provoqué aucune indignation dans le monde politique national.
Elles ont été passées sous silence.
C'est passé sous silence, où ça a fait l'objet de reportages comme ceux qu'on a entendus au début, sur certains passages, c'est-à-dire où on mettait en avant les voitures qui brûlaient et les poubelles qui brûlaient plutôt que la mort des jeunes. C'est d'ailleurs ce qui a été l'attitude collective de l'essentiel de la classe politique en 2005. La première chose, on ne pouvait pas en parler sans dire que c'était scandaleux de brûler des voitures. Mais il y a quand même deux jeunes qui étaient morts.
C'est des Bouna à Clichy-sous-Bois.
Voilà. Donc là, on a quelque chose qui est nouveau, dans la mesure où cette espèce de cordon sanitaire symbolique qu'on avait mis autour des banlieues, qu'on laissait à son sort et qu'on ne pouvait pas voir, et quand on commençait à voir, on disait « oui, mais quand même, peut-être ils le méritent un peu, parce qu'ils sont pas bien, ils sont, voilà ». Là, il y a quelque chose qui a sauté et qui fait qu'au cœur de la campagne présidentielle, me semble-t-il, se pose la question, enfin, de savoir ces jeunes et leurs familles font vraiment partie du peuple français.
Voilà. Et comment expliquer que ce soit cette affaire-là qui ait suscité l'indignation partout, y compris en dehors des banlieues ?
Alors là, c'est très compliqué. Il y a quelque chose d'assez mystérieux, parce que c'est vrai que la mort a moins scandalisé que le viol. Voilà, il faudrait mobiliser le travail d'un philosophe algérien qui s'appelle Sidi Mohamed Barkat, qui a fait un très joli bouquin sur le corps d'exception il y a bien des années, avec lesquels j'ai discuté avec lui. Il y a des images. Je pense qu'un des éléments nouveaux, c'est qu'il y a des images en direct et qu'il y a quelque chose qui continue à vivre après. C'est-à-dire qu'il y a les images et il y a la parole de la victime. Voilà. Parce que des images, on en a eu déjà. Oscar Grant, qui est mort le 31 décembre 2008 dans le métro de San Francisco, tué par la police. Il y avait eu trois films. Ça a fait une journée d'émeute. Et
là, on a eu le témoignage, en fait.
Là où il y a le témoignage
de
derrière.
Théo. Quoi, voilà. Alain Berthaud, Mariam Tiganimine, Catherine Rhein, vous restez avec nous. On se retrouve juste après le flash d'infos sur RFI pour parler notamment éducation dans ces banlieues frappées par les inégalités. Nous serons en ligne avec le sociologue Fabien Truong, qui a enseigné dans plusieurs lycées de Seine-Saint-Denis. Les voisins, les voisines, restez à l'écoute. On revient tout de suite dans 3 minutes.
À l'occasion de la journée, 7 milliards de voisins
on est ensemble.
7 milliards de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez pour une journée spéciale sur RFI. On parle de l'état de la France et de ses banlieues aujourd'hui, 60 jours avant le premier tour des élections présidentielles françaises. De quoi la banlieue est-elle le nom ? Chômage, discrimination à l'embauche, habitat dégradé, décrochage scolaire, la liste est longue. Les mots MOTS et MAUX ne manquent pas, c'est le jeu de mots que nous livre un voisin dans un message Facebook. Un autre voisin s'étonne, Abobo existe en France ? Abobo, c'est un quartier très défavorisé en bordure d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans les banlieues françaises, longtemps oubliées de la campagne électorale. Quels espoirs, quelle foi en l'école, quelle confiance dans les institutions et dans la politique. Pour donner quelques chiffres, dans les 1500 quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui ne regroupent pas toutes les banlieues, vivent plus de 5 millions de Français, c'est 8% de la population du pays. Bref, un électorat qui compte. Avec nous, pour en parler, Mariam Tiganimine, entrepreneur, mais n'allez surtout pas l'appeler entrepreneur des quartiers. Elle a horreur de cette expression, cofondatrice de babelbusiness.com, une plateforme qui propose, en s'inspirant notamment du sport, de créer et de développer son business. Avec nous également l'anthropologue Alain Berthaud, professeur à l'université Paris 8, la géographe Catherine Rhein, directrice de recherche émérite au CNRS, et nous sommes en ligne avec le sociologue Fabien Truong, actuellement à Londres. Bonjour Fabien Truong.
Bonjour.
Vous êtes rattaché à l'université Paris 8. Vous avez également enseigné dans plusieurs lycées de Seine-Saint-Denis. Alors, on accuse l'école de tous les maux en France et notamment dans les banlieues. On lui reproche de ne plus jouer son rôle d'ascenseur social. Qu'en pensez-vous ?
En fait, j'aurais tendance à dire oui et non sur est-ce que l'école est responsable des problèmes ou pas. C'est-à-dire que oui, il y a un certain nombre de problèmes en fait dans le système scolaire français qui s'accumule avec le contexte de la banlieue dont vous avez parlé, le fait que ce soit un système qui soit très rigide, qui délivre beaucoup de verdicts, de sanctions, qui peu de passerelles en fait quand on se trompe, qui soit aussi un système très qui était construit sur le mode du sanctuaire, donc en fait on tend aussi à mettre à l'écart en fait les écoliers du reste de la population. Donc tout ça, ça forge un contexte qui rend la question de l'éducation difficile. Je parle pas aussi de la question de la formation des enseignants, c'est-à-dire que les enseignants sont finalement très peu préparés quand ils rentrent dans le métier à travailler dans un monde social qui connaissent en fait très très peu pour la plupart. Donc ça, ce serait pour le côté un petit peu charger la barque par rapport au système. Et en même temps, je crois qu'on peut pas non plus tout mettre sur le dos de l'école. En fait, il y a beaucoup de problèmes scolaires dans les quartiers populaires qui sont en fait pas du tout le fait de l'école. Et l'école est aussi le reflet, le miroir d'autres problématiques. Je pense notamment la question du rapport à l'emploi, le fait que pourquoi il y a aussi autant de stress à l'école, c'est parce qu'en France la position sociale est très très liée au diplôme, et donc il y a un stress autour des enjeux scolaires qui dépasse largement la question de la banlieue. Et puis, je crois, le plus important, c'est la question de la mixité sociale, c'est-à-dire une des grandes problématiques actuelles, c'est le fait qu'il y ait de moins en moins de mixité sociale et qu'elle soit de plus en plus tardive. Et donc ça forge aussi, les expériences des ados et des pré-ados et leur subjectivité. Et ça, c'est le fruit de la ségrégation urbaine et c'est pas le fruit de l'école.
Est-ce qu'on croit encore à l'école et son pouvoir d'ascenseur social dans ces quartiers ? Est-ce qu'on croit qu'on peut réussir par l'école ?
Oui, on y croit d'abord parce que déjà c'est quelque chose de très très français, et de ce point de vue-là, pour reprendre les propos de votre intervenant tout à l'heure, les banlieusards sont tout à fait normaux entre guillemets. Donc et puis aussi on y croit parce qu'on n'a pas le choix quand on vient de tout en bas. L'école, c'est encore ce qui reste pour pouvoir essayer de trouver une place. C'est pas la seule voie, mais c'est une voie possible. Et d'ailleurs dans mon travail, je m'attache aussi à montrer ces réussites très invisibles et invisibilisées par l'école qui malgré tout existe, mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps de les observer, le temps de les comprendre.
Et vous avez suivi d'ailleurs pour en tirer un livre une vingtaine de jeunes pendant près de 10 ans, de 2005 à 2015, du bac jusqu'à la fin de leurs études. Vous les appelez la crème de la crème banlieusarde, une jeunesse qui s'élève par l'école. Mais pour vous, il y a quand même un stigmate social, le fait de venir de banlieue, entre guillemets, dont les jeunes ont du mal à s'affranchir, même quand ils ont fait des études supérieures.
Oui, alors la crème de la crème, entre guillemets, hein, c'est pas une grande valeur. Mais oui, et d'ailleurs pour reprendre ce que disait Alain Berthaud au début de votre émission, en fait le principal problème pour ces jeunes qui sont en situation d'ascension scolaire, donc qui obtiennent leur bac, qui vont ensuite faire des études supérieures, c'est se défaire de l'imaginaire, en fait, se défaire de l'imaginaire qui tourne autour d'eux. Et l'expérience que font ces jeunes, c'est que plus finalement ils progressent un petit peu dans les échelons scolaires, plus ils ont le sentiment d'y arriver, et en fait plus ils se rendent compte que ce sont des gens qui sont déjà perçus de par leurs origines supposées ou réelles, et donc il y a toujours un petit peu ce jeu à apprendre à réussir à trouver sa place, à se sentir légitime là où on est, et justement plus on en sort, et ça c'est une vraie difficulté qui traduit aussi un petit peu le poids de cet imaginaire, de ces préjugés, hein, de ce qu'on pourrait appeler le poids de la stigmatisation, ça pourrait paraître paradoxal, mais en fait ça l'est pas. C'est-à-dire plus ces jeunes s'élèvent entre guillemets socialement, plus ils sont confrontés à ça, et donc ça montre bien aussi à quel point cet imaginaire pèse aujourd'hui de manière disproportionnée et extrêmement problématique.
Mmh. Et pour vous, la solution, ou en tout cas une des solutions, passe par la méritocratie. Et pour les autres, pour ceux qui ne parviennent pas à faire des études supérieures?
Oui, alors c'est pareil, on a tendance aussi un petit peu à mettre les jeunes dans des cases en disant qu'il y aurait ceux qui méritent et qui réussiraient, et puis ceux qui seraient en bas et qui mériteraient pas ou mériteraient moins. Je pense que c'est un peu plus compliqué. Moi, je travaille vraiment sur des individus et dans le temps, et quand vous travaillez dans un temps un peu long, 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, vous regardez les trajectoires, vous voyez aussi que ces catégories, elles explosent un petit peu. Et si on prend par exemple la question des jeunes garçons délinquants dont on parle beaucoup, effectivement, il y a une délinquance de rue, entre guillemets, qui peut être importante dans certains quartiers, mais quand on prend le temps d'observer les choses dans chaque quartier, en fait, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a des flux, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous suivez les gens suffisamment longtemps, vous voyez que même quand vous êtes un jeune délinquant, entre guillemets, la norme, en fait, c'est de rentrer dans la délinquance et en fait d'en sortir au bout d'un moment.
Donc, on ne reste pas délinquant toute sa vie,
dirais,
en général.
Comme s'il y avait un stock, en fait, qui peut parfois être important et qui se comprend. Hein, c'est dû au fait qu'il y a de moins en moins de travail, c'est dû au fait qu'il y a une demande aussi de drogue, etc. Enfin, il y a tout un tas de phénomènes qui expliquent ça. Mmh. Mais en même temps, quand vous suivez le cours des vies individuelles, la norme, c'est d'en sortir pour tout un tas de raisons et de finalement essayer tant bien que mal de trouver une place ou sa place dans la société. Et c'est vrai que ça se fait sur un temps assez long, et donc du coup c'est très invisibilisé dans les discours médiatiques ou politiques, qui sont des discours de court terme ou très court terme parfois.
Et pourtant, il y a effectivement des trajectoires positives. Merci Fabien Truong, sociologue à l'Université Paris 8. Merci beaucoup pour votre éclairage. Alain Berthaud, comment vous réagissez à ce qui vient d'être dit?
Je voulais d'abord saluer ce collègue. On ne s'est pas encore rencontré, mais ça serait bien qu'on puisse discuter de cette question. Alors, je n'ai pas travaillé sur les questions scolaires de la même façon que Fabien Truong, mais j'ai aussi une expérience un peu en longue durée, puisque j'habite Saint-Denis et que mon fils a été scolarisé à Saint-Denis. Contrairement à des amis et des collègues, je n'ai pas fait l'évitement scolaire. Mmh. Et donc j'ai vu ce que ça pouvait donner de l'intérieur, le fonctionnement de zones qui sont en ZEP. Je me suis investi
en zone d'éducation prioritaire,
comme parent d'élève sur de nombreuses années. Alors je dois vous dire tout de suite que pour un fils d'un télo, les efforts qui ont été faits dans le cadre de la politique de la ville et des ZEP en banlieue, c'est excellent. Mon fils s'en est très très bien tiré. Par contre, j'en ai perçu à travers lui la souffrance de ses camarades. De la souffrance vis-à-vis d'une violence de l'institution sur la question de la culture, de la légitimité de la culture, qui n'est pas due à la compétence professionnelle ou non des enseignants, qui étaient tout à fait investis, mais qui est un effet de système et qui fait que j'ai pu percevoir à l'intérieur des trajectoires de ses copains d'enfance, à quel point les statistiques qui disent que l'école française produit des inégalités, c'est vrai. Y compris dans les zones où on
et
fait des efforts
pour
essayer...
Et comment elle se traduit, cette violence-là
On disait, ils sont pas à leur place. Mais il y a quelque chose, on leur dit déjà qu'ils ne sont pas à leur place.
On les oriente vers des filières professionnelles.
Pas seulement. On arrive en classe avec l'idée qu'il y a des prérequis nécessaires dans la pédagogie, et ces prérequis, ils ne les ont pas. Voilà. Il y a tout un travail d'accompagnement dans l'entrée dans la culture qui n'est pas forcément fait, sans oublier ce qui se passe dehors, effectivement, qu'il faut rattraper, c'est-à-dire la stigmatisation de la culture des parents et les origines des parents. Donc, il y a quelque chose qui se joue qui n'est pas seulement de l'ordre des moyens, qui n'est pas seulement de l'ordre de la pédagogie, mais qui est de l'ordre de la position symbolique de la culture, ce qui fait que, ne l'oubliez pas, non seulement l'école française produit les inégalités, mais dans ces quartiers-là, il y a beaucoup de jeunes qui n'y sont plus.
Oui, qui sont en décrochage.
Personne ne sait où ils sont, hein, pour une part de la journée, ni l'instituteur, ni les parents, ni les travailleurs sociaux, ni l'imam.
Voilà. Catherine Rhein.
Oui, alors je voudrais intervenir sur deux points en matière d'école. D'abord, si on prend l'histoire de la mise en place de ce qu'on va appeler l'offre scolaire, c'est-à-dire l'équipement des banlieues, des communes de banlieue en établissement secondaire, on observe que jusqu'en 1950, il n'y a aucun établissement secondaire construit dans le quart nord-est de la Seine, de l'ancien département de la Seine. Aucun. Mmh. Donc pourquoi ? Parce que le schéma de polarisation socio-spatiale est déjà très fortement développé à cette époque-là, et que simplement, donc, ces espaces-là sont occupés par peuplés de ménages ouvriers pour lesquels il était hors de question de scolariser, ne serait-ce que financièrement, leurs enfants. Ça, c'est tout à fait fondamental. Donc il y a eu un rattrapage énorme, mais qui a été effectivement plutôt sous forme de lycées professionnels et techniques. Effectivement, voilà. L'autre chose qu'il faut garder présent à l'esprit, c'est que les couches ouvrières françaises ont été profondément transformées, en particulier après le choc pétrolier de 1974. Il y a eu deux choses. Il y a eu simultanément, d'une part, le volet regroupement familial a pris beaucoup d'importance, donc il y a eu des arrivées de familles étrangères. Très peu, effectivement, connaissant mal le système scolaire français. L'autre chose, c'est la mise en place de la réforme Habit de 1975, du collège unique, dans lequel, là, il y a eu vraiment des chocs de culture, si l'on peut dire, puisque le collège unique est pensé effectivement à destination plutôt des couches moyennes françaises, francophones.
J'aimerais qu'on laisse la parole à des voisins, des voisines qui nous appellent et qui sont nombreux à nous appeler, notamment Daouda. Bonjour Daouda.
Allô, Charlie ?
Oui, bonjour. Êtes, je crois, dans les Hauts-de-Seine, à Châtenay-Malabry. On vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ?
En fait, moi, je voulais juste témoigner concernant... Des fois, j'entends, on dit des bavures policiers, des contours des policiers et tout. Mm-hmm. Donc, ça fait 12 ans que je suis en France et j'ai jamais eu de contrôle policière.
Vous êtes d'origine sénégalaise, c'est ça ?
Sénégalais, oui, oui.
Donc, vous n'avez jamais été contrôlé lors d'un contrôle d'identité ?
Non.
Donc pour vous, parler de ça, c'est exagéré ? Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Des fois, c'est exagéré. De l'autre côté aussi, je peux comprendre. Il y a certains... Ça dépend du comportement de la personne pour moi, pour qu'on te fait contrôler.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, si vous vous comportez bien vis-à-vis des policiers, on ne va pas vous contrôler. Donc moi, je suis de Châtenay, mais je travaille à Paris.
Ouais, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire ça. Néanmoins, je ne pense pas que ceux qui soient contrôlés le cherchent forcément. Peut-être que vous avez eu de la chance de ne jamais avoir été contrôlé. En tout cas, merci Daouda pour votre témoignage. Alain Berthaud, comment vous réagissez ?
Je suis content pour vous, monsieur, franchement. mais je ne vous conseille pas de venir à Saint-Denis parce que vous verriez qu'il y a une question aussi d'état d'esprit et d'ambiance territoriale. Moi non plus, je ne suis jamais contrôlé à Saint-Denis, mais il y a des jeunes qui ne font strictement rien à mes côtés, qui sont simplement plus jeunes et un peu plus colorés que moi, et qui systématiquement se font contrôler, et pas forcément de façon calme, alors que eux au départ pouvaient être calmes.
Oui, d'accord. Donc c'est aussi une question de chance. Merci beaucoup, Daouda, pour votre témoignage. Nous sommes aussi en ligne avec Paula, qui est en région parisienne, elle aussi. Bonjour, Paula.
Oui, bonjour, Emmanuel.
Bonjour, je suis Charlie, mais c'est pas grave, je remplace Emmanuel aujourd'hui. Je vous écoute.
Bien. Je vous appelle juste pour dire qu'en fait, il y a des clichés qui continuent d'exister. Et ça, c'est le truc qui nous choque. Et personne ne représente vraiment la banlieue. Et le regard que les journalistes, les politiques, tout le monde a, c'est vraiment le regard condescendant envers les habitants de la banlieue. En banlieue, il y a de tout. Il y a des gens qui ont des doctorats, qui ont des masters 1, masters 2, qui travaillent, qui font de tout. Il y a une petite minorité qui fait que, justement, il y a des problèmes. Mais on ne va jamais parler de tout ce qui va bien, la preuve. On n'entend que des problèmes. On ne dit pas qu'il y a des gens qui réussissent, qui travaillent, qui ont des enfants, qui vivent normalement comme les Français. C'est comme si on vivait à part, on vivait dans une ville. Et puis même, il faut même entendre comment on parle. Les gens des quartiers, ces gens des quartiers, les gens de ces quartiers, ce n'est pas, c'est pas comme ça. Et moi, quand on parle comme ça des gens qui habitent dans les banlieues, moi, je ne me sens pas concernée parce que je travaille, je gagne ma vie, je fais mes études et je n'ai pas de soucis. J'ai pas de soucis. Donc, c'est vraiment dommage de penser tout de suite à les gens de quartier. Mais voilà, on est ostracisé. Dès qu'on arrive dans une entreprise, à vous habitez où? Vous habitez si? Alors, en plus, quand on dit qu'on habite dans le 9-3, comme disent les jeunes, on est foutu. Moi, j'habite pas dans le 9-3. Mais je trouve dommage qu'on ne fait que dire « Ah, ça ne va pas, ça ne va pas », alors que la majorité travaille, la majorité fait des études, la majorité peut s'en sortir.
Vous vous sentez stigmatisé, en fait, dans ce discours-là.
Stigmatisé, ostracisé et pas respecté. Et moi, ça, j'ai appelé pour un coup de gueule parce que je ne suis pas du tout d'accord et je ne me sens pas du tout concernée
par cette banlieue qu'on décrit. Qu'on décrit dans les médias en général. Merci beaucoup pour effectivement ce coup de gueule, Paula. Les voisins, les voisines, vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71 pour d'autres coups de gueule ou pour des questions comme vous le souhaitez. On se retrouve dans un instant après Révolution avec un accent circonflexe comme dans Rêve de IAM qui groupe marseillais qui vient de sortir un tout nouvel album.
Parler d'avenir à quoi bon si on fait du surplace, figé, statue de glace, que le soleil efface, bouger c'est ça, l'astuce c'est le mouvement, perpétuel et peu importe si le vent change de camp, j'entends laisser le temps autant, ce qu'on nous vend c'est l'immobilisme, surtout on bouge pas, on pense pas, et si la chance nous vise, on la tente pas, la case, le métro, le taf, le métro, la case, le pion doit rester pion, alors sur nos cases ils posent des cages, dur de toucher les nuages, quand l'esprit est dans le béton, comment tu veux regarder le ciel quand t'as la tête dans les guidons, pendant que sur la grande place parade leurs rétrograde, on se regarde de travers, on va même se faire des croche-pattes à la première occasion. À ça, on sait le faire tout seul. On a besoin de personne pour finir écrasé au sol. On trouvera toujours quelqu'un à blâmer, ça c'est facile. Comme ça, on leur mâche le travail, eux n'ont qu'à rester assis, comme un vieux père assis. Nos vies s'effritent chaque jour un peu plus. Ratons pas le bus, on sait tous qu'il y aura pas de bis. Y a trop de vis dans les cœurs pour qu'on puisse parler d'union. Trop de crainte, trop de peur, trop de haine, trop de plomb, trop de vide. Ça laisse la place aux nocifs. Regarde-nous résister aux vagues. Bien accroché au récif. J'ai fouillé dans chaque buisson, j'ai pas trouvé de solution. J'ai donc rejoint le grand de ceux qui rêvent évolution.
Ce n'est pas le grand ni le puissant qui nous fait le veto, ni l'amour abusé pour les métaux.
On peint les jours noirs comme on colorait les rames du métro et réciter les poésies du ghetto.
Ce n'est pas le grand ni le puissant qui nous fait le veto, ni l'amour abusé pour les métaux.
Mon Dieu, prends-nous en pitié, j'envoie de partout c'est trop. Plein de gens bois comme Gepetto.
Behold the revolutionists.
Bring the people, bring the power back to the street where the people live.
My revolution is real.
Struggle. 7 milliards de voisins, nous parlons des banlieues aujourd'hui, des banlieues frappées de plein fouet par le chômage. Pour vous donner quelques chiffres, le chômage des 15 à 64 ans atteint 18,5% en Seine-Saint-Denis. C'est le double de la moyenne en France métropolitaine. Dans ce contexte, Mariam Tigani-Mine, l'entrepreneuriat est-il la solution, et notamment même le micro-entrepreneuriat, c'est-à-dire des gens qui se lancent dans des petites entreprises?
Je ne sais pas si c'est la solution, mais il y a pas mal en fait d'entrepreneurs. En fait, il y a une économie qui est plutôt invisible, qui est portée en fait par des entrepreneurs qui vivent en fait dans ces territoires, qui sont enfin des créateurs d'emplois. Qui font pas l'ouverture en fait des journaux TV ou qui ne font pas la une des médias consacrés en fait aux startups et aux milieux tech, mais qui voilà, enfin font des choses. Ils n'ont pas attendu en fait qu'on leur donne quelque chose. Enfin, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui ont juste en fait été discriminés sur le marché du travail et qui se sont retrouvés effectivement à créer leurs propres débouchés.
Dans quelles activités?
Dans un peu tout, dans la restauration, dans le transfert d'argent, dans tout ce qui est service à la demande. C'est devenu à la mode, on parle d'on-demand, etc. Mais les services à la demande dans ces territoires, ça fait quelques années qu'ils existent. Après, effectivement, c'est peut-être moins paillette pour les politiques ou certains journalistes, malheureusement, mais ça existe. Enfin, je prends toujours, moi, l'exemple un peu, voilà, dans la restauration des kebabs. il s'avère que j'ai eu aussi une grosse expérience de bénévolat en fait au sein de structures associatives pour l'éducation, etc. Et le discours, moi, ce qui m'avait frappé, c'est que ce soit de la part des élus ou de la part en fait des éducateurs, pour eux en fait leur plus grande crainte, c'était que les jeunes se tournent vers le commerce, vers l'ouverture de kebab ou de chicha. Et moi en fait ça m'a toujours frappé, parce que pour moi c'est du business. Donc voilà, enfin, on trouve génial que des diplômés d'HEC en fait développent une application pour livrer des repas. Par contre, quand on est dans le 93 et qu'on ouvre un kebab, mais moi je mets au défi n'importe qui, ouais, d'ouvrir un kebab. Et il y en a, ils en ont pas qu'un, ils en ont cinq. Et ils sont des salariés.
Mais c'est une vraie entreprise.
Exactement. Voilà.
On peut vous reprocher de contribuer avec votre plateforme et votre idée aussi derrière cette plateforme, de contribuer à une ubérisation de la société, c'est-à-dire plein de petits boulots, voilà, qui sont assez précaires malgré tout. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Alors, moi, encore une fois, je ne propose pas du boulot. Voilà, c'est pas ça. Hein. L'idée, c'est d'accompagner des personnes qui veulent créer, développer ou perfectionner leur business.
Sur des projets, déjà.
Tout à fait. Après, moi, l'ubérisation, ça veut tout et rien dire. Je suis frappée, en fait, par la fragilité, en fait, la supposée fragilité de notre économie qui est ébranlée par une entreprise qui n'a même pas 10 ans. Ça me paraît en fait gros. On a dû parler de la carrefourisation de la distribution à l'époque de Carrefour et d'Auchan. Enfin, j'imagine. De toute façon, voilà. Enfin, faut toujours des mots spectaculaires pour des événements spectaculaires. Après, moi, j'essaie de répondre vraiment en fait à des problèmes et à des besoins. Quand on me dit, bah moi, j'ai envie de développer mon business dans tel domaine, mais par contre, je sais pas quoi faire parce que c'est pas venu comme ça. C'est issu d'un processus. On a rencontré des personnes qui avaient un problème de compétence, qui avaient peur de l'échec, enfin, qui avaient pas mal de freins psychologiques en fait qui les empêchaient de se lancer, qui trouvaient pas de travail sur le marché du travail, qui occupaient des formes plutôt atypiques, enfin d'emploi, des emplois plutôt précaires, et qui en fait se sont retrouvés à devoir faire ça pour gagner un complément de revenu. Donc moi, quand j'ai ça, bah j'essaie de trouver une solution et
de
je vais
les
pas
aider,
leur dire
les
non
accompagner.
Oui
pourquoi pas,
exactement,
pourquoi pas cet entrepreneuriat là.
Voilà,
je vous propose de faire un pas de côté avec nos voisins, nos voisines qui nous écrivent sur Facebook, de Dakar, d'Abidjan, de N'Djamena, beaucoup du Tchad, pour nous parler aussi de leur banlieue à eux. Et nous sommes en ligne avec Bouna, qui nous appelle de Nouakchott, en Mauritanie. Bonjour Bouna.
Bonjour, allô.
Alors, parlez-nous de votre banlieue, des banlieues que vous connaissez. Qu'est-ce que vous voulez nous dire?
Les banlieues, c'est un peu ma spécialité.
Tant mieux.
J'ai vécu à Dakar, je suis né à Dakar.
Oui.
Je suis de parents mauritaniens. Donc, la petite enfance, je l'ai vécue à Dakar. Et là-bas, la première chose qui m'a frappé, c'est la violence. C'est tout le temps la violence et c'était quelque chose de difficile à comprendre. Il y a quelques années, je suis allé en Côte d'Ivoire. J'ai vécu aussi à Abobogar, un peu à Adjamé.
Près d'Abidjan.
Oui, et c'est toujours la violence. Quand on parle, c'est avec violence. C'est pour imposer quelque chose.
Et vous dites aussi qu'on a de nombreuses inégalités dans ces banlieues-là que vous avez côtoyées.
Oui, c'est toujours l'inégalité. Lorsque je suis rentré dans mon pays maintenant, en Mauritanie, j'ai trouvé quelque chose de plus complexe encore. Ici, il y a la ségrégation raciale, il y a le racisme. Et j'ai eu la chance de fonder une école et j'ai vu que les jeunes, ils sont souvent tentés par le fait d'agresser des gens pour leur soutirer quelque chose. Ceux qui sont les agresseurs, ils sont souvent noirs, ils sont nés dans des quartiers périphériques, ils sont pauvres. Et ils agressent souvent les blancs. Parce qu'en réalité, c'est eux qui ont un niveau social supérieur.
Oui, après, je pense que c'est aussi une histoire de conditions sociales et de quartiers très défavorisés. Merci en tout cas, Bouna, pour votre témoignage. Alain Berthaud, alors on se doute qu'évidemment, les situations ne sont pas les mêmes d'une banlieue à l'autre, selon le contexte international. Que nous apprennent aussi ces banlieues-là, notamment, là, on parlait d'Abidjan, de Dakar, de Nouakchott?
Je connais un petit peu Dakar. J'y travaille régulièrement depuis maintenant 6 ans, et notamment dans la banlieue, et un petit peu la situation de Rio de Janeiro. C'est pas forcément en banlieue, puisque Rio de Janeiro, les favelas sont en centre-ville. Mais partout se pose la question de la gestion sécuritaire des populations les plus pauvres, des classes populaires, et leur utilisation, je dirais, dans l'économie urbaine comme variable d'ajustement du marché foncier. C'est une façon aussi de faire baisser le foncier, quand on les expulse, de faire remonter le foncier. C'est ce qui s'est passé dans les favelas du centre-ville de Rio, juste avant les Jeux et la Coupe du Monde de football. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans la grande banlieue de Dakar, où Guenaouraï, Pikin, Guédaouaï, ce sont des populations qui ont été, il y a des décennies de ça, expulsées du centre-ville, du plateau et de la Médina, et qui ont été mis dans des zones inondables, et qui connaissent des inondations depuis des années. Et le fait de régler les inondations est en train de libérer du terrain qui est d'ores et déjà pris dans des enjeux de spéculation foncière. C'est tout à fait impressionnant. Mais j'en sors aussi autre chose, qui est aussi un point commun avec la France. C'est-à-dire qu'il y a dans la jeunesse notamment de ces quartiers pauvres, une énergie qui ne demande qu'à être exploité. Donc j'entends avec beaucoup d'intérêt ce qu'on nous dit sur l'entrepreneuriat, parce que c'est vrai que quand on est discriminé à l'embauche, discriminé dans le logement, de cette énergie, on peut aussi l'investir en la valorisant soi-même. Et ça se retrouve aussi.
Et d'ailleurs, on a un grand
d'un continent à l'autre.
Exactement. Et on a un grand nombre de collectifs en banlieue, le collectif Plus Sans Ascenseur, dans les HLM, les habitations à loyer modéré. Beaucoup d'associations, de collectifs, d'habitants qui se rassemblent. Alors, on n'a pas eu le temps de parler de tout. On voulait aussi parler de la gentrification, un phénomène très important en banlieue avec ces classes moyennes qui prennent la place des classes populaires. Merci en tout cas à vous, Alain Berthaud, Catherine Rhein, Mariam Tigani-Mine. Merci aussi à toute l'équipe de 7 milliards de voisins. Mathieu Salabert, Cécile Lavolo, Camille Nérand, les voisins. Et merci à vous, bien sûr, les voisins, les voisines. À demain dans 7 milliards de voisins. RFI.